une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 13 février 1974, voilà exactement 49 ans, Alexandre Solzhenitsyn est expulsé du RSS. L'écrivain soviétique, rendu célèbre grâce à son roman « Une journée d'Ivan Denisovitch » en 1962, et surtout à l'appui de Khrouchtchev, est rapidement mis à l'index sous son successeur Brejnev, tout en étant encensé par la critique littéraire internationale. Fin 1973, il fait passer à l'Ouest clandestinement, puis publie en France le manuscrit de l'archipel du Goulag, décrivant le régime concentrationnaire soviétique qu'il a connu de 1945 à 1953. Arrêté le 12 février, il est expulsé le lendemain vers la République fédérale allemande après avoir été déchu de la nationalité soviétique. La femme d'Alexandre Solzhenitsyn s'est entretenue par téléphone le soir du 13 février de Moscou avec son mari arrivé quelques heures plus tôt en Allemagne fédérale. L'écrivain lui a déclaré qu'il était en bonne santé et qu'il avait passé la nuit, suivant son arrestation, à la prison moscovite de Lefortovo. On s'interroge encore sur les conditions dans lesquelles Solzhenitsyn a accepté de quitter l'Union soviétique. Les agences de presse citent des sources soviétiques à Moscou, selon lesquelles l'écrivain a accepté volontairement de partir après l'entretien qu'il a eu en représentant du ministère public. De même source, on indique que les autorités avaient l'intention de prévenir quelques jours à l'avance Solzhenitsyn de sa prochaine expulsion. C'est dans ce but qu'il aurait été convoqué par le parquet, mais son refus de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées aurait conduit à brusquer son départ. Toujours de sources soviétiques, on indique que la famille de Solzhenitsyn serait autorisée en le rejoignant à emporter tous les documents dont il peut avoir besoin pour la poursuite de son œuvre. De nombreux hommes d'État ont exprimé leur émotion devant la mesure d'expulsion qui vient de le frapper et ont fait savoir que leur pays respectif serait prêt à accueillir l'écrivain s'il souhaitait y résider. C'est notamment ce qu'a déclaré à Washington le secrétaire d'État américain Henry Kissinger, qui a ajouté « Les États-Unis ont toujours apprécié et considéré avec sympathie les manifestations de liberté dans toutes les sociétés ». À Moscou, la plupart des journaux publient le 14 février une information de l'agence TASS annonçant l'expulsion de Solzhenitsyn. La nouvelle est brève, difficile à trouver au bas de la dernière page. La discrétion avec laquelle les soviétiques sont informés de la conclusion de l'affaire Solzhenitsyn contraste avec l'ampleur de la campagne qui avait été lancée contre l'auteur de l'archipel du Goulag. L'agence TASS précise que la famille de Solzhenitsyn pourra le suivre dès qu'elle l'estimera nécessaire. Les journaux ne précisent pas vers quel pays Solzhenitsyn a été expulsé. Mais le 13 février au soir, les moscovites étaient au courant. Le choix de l'Allemagne fédérale est particulièrement judicieux du point de vue des dirigeants de l'URSS. En évitant les États-Unis, on ne donne pas l'impression de céder à une campagne américaine ou de se plier à des exigences américaines. En choisissant l'Allemagne fédérale, on prend au mot le chancelier Willy Brandt, qui avait affirmé dans un discours prononcé au début du mois que le Solzhenitsyn serait le bienvenu en RFA. On évite donc de longues tractations et on suggère aussi que Solzhenitsyn, le Vlassov de la littérature, selon la Gazette littéraire, retourne auprès des siens. Tout cela est d'une certaine logique. Solzhenitsyn, coupable d'après la presse soviétique d'avoir fait l'éloge du collaborateur Vlassov, se retrouve au pays des revanchards allemands. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'expulsion de Solzhenitsyn n'a pas été le résultat d'une décision improvisée, prise à chaud. Les discussions avec le chancelier Brandt auraient commencé au début du mois par l'intermédiaire de l'ambassade soviétique à Bonn. L'escalade à laquelle on a assisté, en particulier la déclaration faite par Solzhenitsyn niant toute légitimité aux institutions soviétiques, n'aurait donc joué aucun rôle dans les décisions des soviétiques. Celle-ci était prise depuis longtemps et selon certaines versions, même si Solzhenitsyn était resté silencieux, il aurait été chassé tout de même. Il a bel et bien été expulsé de son pays pour avoir écrit l'archipel du Goulag. Proscrit du RSS, Alexandre Solzhenitsyn s'installera finalement aux États-Unis pour 20 ans d'exil, 20 ans d'écriture forcenée en sa retraite américaine du Vermont qui n'ont pas entamé l'énergie du dissident. Il rentrera en Russie en 1994 où Gorbatchev l'avait réhabilité dès 1989. Il y décédera en 2008 à 89 ans.
Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, уехал сам.
ні по етапу, ні по етапу, ні то, щоб другу не везло, ні чтоб кому-нибудь назло, ні для молвы, що мол чудак, а просто так, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться, ведь там сплошенные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан.
Quand il choisit de retrouver sa mère patrie en 1994, il va le faire lentement, étape par étape, d'est en ouest. Son avion, par exemple, fait escale à Magadan, cette porte de l'enfer concentrationnaire de la Kolyma, cette ville perdue de l'extrême-orient russe. Tel un pape, Solzhenitsyn baise ce sol foulé par les martyrs anonymes auxquels son monumental archipel du Goulag avait donné la parole. À chaque gare, les anciens zecs, les détenus viennent à sa rencontre. Chaque soir, il écoute les doléances d'un public désorienté par la chute du communisme, les réformes économiques, la perte d'un empire. Humilié et offensé, il trouve Solzhenitsyn attentif à leurs préoccupations. Une fois de plus, il disait non. Non à la liberté économique débridée, non à la confiscation de la démocratie par les anciens profiteurs. Solzhenitsyn n'est pas un politicien, il ne présente pas un programme susceptible de rassembler des adhésions, il est avant tout un rebelle qui dit non. Une grande part du malentendu entre lui et l'Occident vient de ce que l'Occident a toujours mal perçu, la racine spirituelle du non de Solzhenitsyn. Cette racine est religieuse. L'homme a trouvé la foi dans le dénuement absolu des camps. Son premier refus a été celui de l'avilissement de l'homme matriculaire. De ce refus central sont venus les autres. Refus de l'idéologie, refus des pouvoirs qui annihilent les personnes, refus du progrès économique transformé en veau d'or, du libéralisme politique qui engendre une jungle économique et sociale. Solzhenitsyn a dénoncé toutes les formes de totalitarisme, du stalinisme à la terreur révolutionnaire française, ce qui lui a valu de nombreux ennemis. Ce rebelle qui dit non a connu la joie intense qu'on procure précisément le refus. La jubilation de la révolte, le rire de l'esclave affranchi, la mordante ironie de l'imprécateur marquent son œuvre. Quand il retrouve sa patrie russe après 20 ans d'exil, son retour triomphal fait penser en France à celui de Victor Hugo en 1870, après 19 ans d'exil. Mais lui, c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire.